France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. À la une de ce 13h, Israël demande à la population de Gaza d'évacuer vers le sud, prélude à un possible assaut terrestre. Mais nous verrons avec notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, pourquoi les Gazaouis ne fuient toujours pas. Nous serons également en direct d'Italie avec Bruno Duvic à quelques heures du pèlerinage LGBT dans le cadre d'un jubilé au sein de l'Église catholique. C'est une première. En France, les sachets de nicotine prisés des jeunes, eh bien, ils seront bannis en mars prochain. Le décret est paru ce matin au journal officiel. L'invité de ce journal, à propos du festival Visa pour l'image. On va parler de photos. C'est à Perpignan jusqu'au 14 septembre. Et parmi les photographes récompensés, notre invité. Donc Gaël Turine pour son web doc sur Haïti. En sport, nous verrons comment la Ligue féminine de football est sacrifiée économiquement au profit de la Ligue masculine. Et puis nous irons à Brest imiter le cri de la mouette, également le cri du goéland. Attention, ça peut faire mal aux oreilles. Enfin, le temps de ce samedi, Céline Dacosta, comme un air d'été cet après-midi.
Oui, avec des températures qui vont dépasser les 30 degrés dans le sud-ouest.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Il serait encore plusieurs centaines de milliers de personnes à vivre dans la ville de Gaza, 1 million dans la région selon l'ONU. Et il y a quelques jours, le CICR mettait en garde contre leur évacuation massive jugée irréalisable. Et bien ce matin, l'armée israélienne a demandé malgré tout à cette population d'évacuer vers une zone dite humanitaire, plus au sud, dans la perspective d'un assaut au sol. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Eric.
Vous êtes en direct de Jérusalem. Thibault, pourquoi les Palestiniens de la ville de Gaza ne fuient-ils pas massivement vers le sud ?
Eh bien déjà parce qu'ils ne croient tout simplement pas les Israéliens. L'armée a annoncé tout à l'heure par la voix de son porte-parole arabophone la création d'une nouvelle zone dite humanitaire. Et cette zone se situe dans la ville de Khan Younes, c'est au sud, et on y trouverait de l'eau, des hôpitaux de campagne, des tentes et de la nourriture. La réalité que l'on nous rapporte de l'intérieur de l'enclave, c'est que pour le moment, l'espace est saturé, le prix des logements explose et qu'il est très compliqué de tout abandonner. C'est le cas de Souila. Elle a été déplacée 4 fois depuis le début de la guerre. Elle vit dans la ville de Gaza, sur les décombres d'une maison, et elle est au micro du journal. Nabil Diab.
J'aimerais vraiment qu'on nous aide à partir. Je ne veux plus vivre ici. Mais pour aller où ? Vers le sud ? À Deir el-Bala ou à Khan Younes ? Je n'ai plus les moyens de me déplacer. Je n'ai plus d'argent. Je suis malade. Je suis fatiguée. Je ne veux plus rester ici. Je pleure jour et nuit. Je veux quitter Gaza. On n'en peut plus.
L'armée israélienne estime que sur les 900 000 habitants de la ville de Gaza, seulement 70 000 sont partis. Information très compliquée à vérifier puisque, vous le savez, Israël n'autorise toujours pas la presse étrangère à travailler en toute indépendance dans l'enclave.
Et à l'instant, Israël annonce avoir détruit 2 tours d'immeubles à Gazaville ce matin. C'est ce que disent des témoins que rapporte l'agence France Presse. C'était Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. En Italie, certains y verront un signe d'ouverture de l'Église, un rassemblement LGBT figure au calendrier officiel du jubilé de l'Église catholique. Ce jubilé a lieu tous les 25 ans. Il se traduit par une série de pèlerinages à Rome et on va le vérifier donc encore cet après-midi à la basilique Saint-Pierre. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter en direct de Rome. C'est bien la première fois qu'un pèlerinage de ce type se tient officiellement dans le cadre d'un jubilé.
Oui, inscrit au calendrier officiel, ce qui n'a pas été évident, même si les lettres LGBT n'y figurent pas. Alors il ne faut pas attendre une foule énorme, un peu plus de 1400 personnes venues d'une vingtaine de pays sont inscrites auprès de la principale organisation. Mais c'est une marque de reconnaissance. François l'avait validé, Léon n'est pas revenu sur ce choix. Reconnaissance aussi, une messe ce matin, célébrée par l'un des principaux évêques italiens. Hier soir, lors d'une veillée de prière dans le centre, 3 détails étaient frappants. Certains fidèles qui n'ont pas fait leur coming out adultes ne voulaient pas être photographiés, des fidèles africains manquaient, empêchés de quitter leur pays. Et même s'il y avait une croix arc-en-ciel, on était loin d'une gay pride. Les pèlerins, conscients des blocages, ne demandent pas la révolution, mais des signes clairs d'accueil.
Des signes clairs dans ce sens. Le pape François en avait fait. Bruno, est-ce que sur ce point précis, Léon va reprendre son héritage ?
Alors, il n'a pas dit grand-chose pour l'instant. Il a reçu cette semaine le prêtre principal soutien à la cause LGBT au sein de l'Église en lui disant qu'il, oui, reprendrait l'héritage de François. Mais son discours à propos de la famille ne fait pas bouger la doctrine. La famille, c'est un homme et une femme qui s'unissent pour procréer. Le texte du pape François autorisant les simples bénédictions de fidèles homosexuels avait bloqué la moitié de l'Église. Mais les pèlerins de ce week-end attendent plus simplement que s'amplifie ce qui existe déjà dans beaucoup de paroisses, une inclusion tranquille, sans réserve dans la vie quotidienne de la communauté. Lors de ce week-end, Léon a plusieurs occasions de leur adresser un signe. On verra s'il le fait.
Et on suivra ça effectivement. Merci Bruno Duvic. En direct de Rome et toujours en Italie, la fin d'une époque. Milan rend hommage ce matin à Giorgio Armani. Depuis ce matin, donc la dépouille du couturier mort jeudi à 91 ans est exposée en chapelle ardente dans l'Armani Teatro, lieu emblématique de la capitale lombarde. En économie, il fallait s'y attendre. Donald Trump menace l'Union européenne de représailles depuis que la Commission européenne veut infliger à Google une amende de près de 3 milliards d'euros pour abus de position dominante concernant la publicité en ligne. Eh bien, écoutez cette réaction de l'eurodéputé Renew, Sandro Gozzi, également secrétaire général du Parti démocrate européen. Pour lui, cette menace de représailles de Donald Trump est tout simplement une incongruité.
La raison pour laquelle le président Trump s'acharne, nous attaque, fait des déclarations, nous menace concernant notre législation numérique, c'est parce que les big tech voudraient éviter de devoir respecter nos lois. C'est inacceptable. Nous avons librement adopté des lois, nous devons les appliquer.
Est-ce que vraiment, on ne va pas risquer de devoir sacrifier un certain nombre de secteurs, quand même, pour faire respecter ces règles sur les géants de la tech ?
Non, je ne crois pas. Je crois que tout simplement, ils sont tellement intéressés, parce qu'on est les premiers marchés au monde, ils sont très intéressés à travailler dans notre marché, ils voudraient les faire sans règles. Ils voudraient les Far West en Europe. Ceci n'est pas possible.
Merci.
Il faut bien distinguer les choses.
Sandro Gozzi, au micro de mon confrère de France Info, Adrien Becht, l'eurodéputé Renew, ne doute pas que Google va d'abord faire appel et finalement payer cette amende infligée par la Commission européenne si cet appel n'aboutit pas.
France Inter, le journal de 13h, Éric Delvaux.
Ce sont des billes de gomme chargées de nicotine et on les coince entre la lèvre et la gencive, ce qu'on appelle les pouches de nicotine. Eh bien, ils seront interdits en France à partir de mars prochain. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Eric.
Vous vous êtes penché sur la question. Ces sachets de nicotine sans tabac seront donc interdits en raison de leur toxicité, également leur caractère addictif, en particulier chez les jeunes.
Oui, des adolescents clairement ciblés par ces sachets de nicotine aromatisée, un marketing agressif sur les réseaux sociaux qui séduit donc les adolescents, un produit quasiment invisible pour les adultes et les parents.
Moi, je connais une copine qui en prend tous les matins pour aller en cours. Ça la change de comportement, elle marche lentement.
Bah ça brûle un petit peu la gencive, ça détériore la gencive, ça crée de l'addiction.
Dès sa commercialisation en France, l'ANSES lance un appel à la vigilance. Plus que l'addiction, des cas d'intoxication aiguë à la nicotine sont signalés fin 2023, avec une vague d'appels dans les centres antipoison. L'an dernier, une étude révèle la teneur en arsenic, en plomb, en antimoine de certaines fabrications qui s'ajoutent à des niveaux parfois explosifs de nicotine. Il était donc urgent d'interdire la commercialisation de ce type de produit, se réjouit le professeur Yves Martinet, à la tête du Comité national contre le tabagisme.
C'est une très bonne nouvelle, parce qu'il n'y a aucune raison de commercialiser des produits tels que ceux-ci, qui n'ont pour objectif unique que d'accrocher des jeunes adolescents pour les rendre accros à la nicotine. Les doses qui sont présentes dans ces sachets sont des doses de nicotine énorme. Nous, on a fait des vérifications. Vous avez des sachets où il y a des concentrations de nicotine, mais c'est des bombes. C'est des bombes de nicotine. Et donc, il n'y a aucune raison de commercialiser ces produits.
Interdiction effective donc en mars prochain chez tous les buralistes, mais tous ces produits à base de nicotine sont également vendus massivement en ligne sur les réseaux sociaux en provenance de Chine ou de Bulgarie.
Laurent Kramer, autre décret paru ce matin au journal officiel. Il s'agit de renforcer la prise en charge des bébés dans les 34 pouponnières de l'aide sociale à l'enfance. Ces lieux sont souvent saturés, ils accueillent des enfants de 0 à 3 ans. Et bien cette réforme vise justement à assurer un meilleur encadrement des bambins avec un budget qui sera à la hausse. À deux jours du vote de confiance, François Bayrou poursuit sa tournée médiatique, d'autres diront sa tournée d'adieu. Le Premier ministre sera ce soir l'invité de C'est à vous sur France 5 à 19h avant de répondre demain midi aux questions du média en ligne brut. Autre rendez-vous politique, Jean-Luc Mélenchon se rend à la braderie de Lille où il va tenir un discours. Et de leur côté, les Républicains font leur rentrée ce week-end, leurs universités d'été. Ça se passe à Port-Marly, dans les Yvelines. Notre collègue de France Inter, Thomas Legrand, ne sera pas à l'antenne comme prévu demain dans la matinale. La direction de France Inter ayant décidé de le suspendre à titre conservatoire. Et cela fait suite à la diffusion en ligne d'extraits d'une vidéo le montrant en train de tenir des propos lors d'un échange privé avec deux personnalités du Parti Socialiste. Des extraits donc qui peuvent prêter à confusion. La direction de France Inter a donc préféré, dit-elle, protéger de tout discrédit l'antenne d'Inter et le travail des journalistes. Le parquet de Bobigny ouvre une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique après la diffusion sur le réseau X d'une vidéo montrant un jeune homme en train de se faire violemment gifler puis cracher dessus par un policier. Vidéo publiée par un député LFI, Sarah Guibaudot.
Oui, selon l'élu, c'est une mère de famille de Saint-Denis qui a filmé la scène en surplomb depuis sa fenêtre. On l'entend parfois pousser des exclamations d'effroi. La vidéo d'une quarantaine de secondes ne permet pas d'entendre clairement ce que se disent le jeune homme acculé contre la grille de l'immeuble, qui ne montre pas de signe de rébellion, et un policier en uniforme qui lui fait face. Deux autres agents tout près n'interviendront pas. On distingue que le ton monte, le premier agent donne une forte gifle, puis continue de se dresser face au jeune homme. « Il y a écrit quoi, là ?» fait-il en montrant sa poitrine, avant de lancer « Ferme ta gueule » et de lui cracher au visage. Peu après, les policiers s'en vont, sans interpeller le jeune homme. Le député Ali Diouara a dénoncé les faits à la justice. Le parquet de Bobigny a saisi l'inspection générale de la police et la préfecture de police lancé une enquête administrative. Le préfet de police, régulièrement interpellé par le député Diouara au sujet des violences policières, il s'écharpe sur les réseaux sociaux. Laurent Nunez n'a pas encore réagi.
Sarah Guibaudot en direct, service police justice de France Inter. Perpignan, capitale mondiale de la photo, le festival Visa pour l'image se tient jusqu'au 14 septembre. Et parmi les photographes déjà récompensés, Gaël Turine. Il a reçu le Visa d'or de l'information numérique France Info pour son webdoc intitulé Haïti au cœur de l'enfer. Webdoc réalisé avec deux journalistes haïtiens, Johnson Sabin et Milo Milford. Pour la Libre Belgique, le lauréat Gaël Turine, qui est notre invité. Bonjour Gaël Turine.
Bonjour.
Alors vous connaissez bien, même très bien, Haïti. Qu'est-ce qui vous a fait revenir régulièrement depuis 20 ans sur cette île meurtrie parmi les plus pauvres de la planète ?
Oui, bien, mon aventure haïtienne a démarré en 2005, voyage au cours duquel j'ai découvert les rites vaudou. Et puis après, grâce à une bourse, j'ai pu travailler sur... le voyage du vaudou pendant 5 ans en allant aux États-Unis, en Afrique de l'Ouest, etc. Et puis j'ai eu des commandes pour la presse, puis j'ai travaillé pour des ONG, etc., etc. Et donc voilà, au gré des années, j'ai nourri une relation un peu particulière avec le pays, avec les Haïtiens, les Haïtiennes. Et finalement, j'ai réussi à monter un projet de formation pour des jeunes photographes haïtiens. Et donc pendant plusieurs années, j'ai coordonné, j'ai enseigné là-bas, ce qui était absolument passionnant. Et donc, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais envie de pouvoir mener un projet à 4 mains ou 6 mains avec des collègues haïtiens. Et donc,
on va en parler de ces collègues haïtiens.
Ah, oui, voilà.
Et je voulais revenir sur ce qui a séduit le jury. Hein. Ce sont vos images qui ne sombrent jamais dans le misérabilisme haïtien. Et ça faisait partie d'un parti pris éditorial ?
mais vraisemblablement tout en montrant la très dure réalité des choses. Et puis la présence de Milo Milford et Johnson Sabin, donc ils sont haïtiens et qui sont évidemment très très attentifs à l'image que l'on donne de leur pays, la manière dont les médias internationaux et étrangers traitent la problématique haïtienne, surtout aujourd'hui, puisque le pays est plongé dans un chaos sans précédent, eh bien, peut-être que leur présence a posé des balises de sécurité pour ne pas sombrer dans des facilités, dans des réductions, etc. Donc, et puis, l'objet WebDoc en tant que tel, voilà pourquoi il est intéressant et passionnant. C'est parce qu'on peut quand même y inclure beaucoup, beaucoup de matière, puisqu'on est sur le web. Et donc, voilà, je crois qu'on a pu monter quelque chose avec plusieurs chapitres très complémentaires. Voilà.
Haïti est un pays en faillite, d'une extrême violence aussi. On le voit d'ailleurs, cette violence dans ce doc web, WebDoc. Haïti est à la recherche de stabilité. L'ONU s'y emploie, mais avec quel succès ?
Ah bah pour le moment, c'est un échec. Mais c'est un échec parce que le projet d'envoyer des contingents kényans, bah c'était pas mal, pourquoi pas. Mais voilà, je le dis sans jugement, mais il se fait que ce ne sont sans doute pas les contingents qui sont à même de pouvoir affronter les gangs. Il faut pas oublier que les gangs, ça représente des milliers et milliers d'hommes qui sont surarmés. Les chiffres, c'est un chiffre informel, mais qui est quand même le résultat de plusieurs enquêtes, c'est qu'il y a aujourd'hui en Haïti entre 600 000 et 800 000 armes de guerre. On n'est plus avec des petites armes de poing qui circulent illégalement dans le pays, qui sont aux mains des gangs. Donc ça veut dire qu'ils ont une puissance de feu qui est la raison même de leur surpuissance en Haïti, parce que ni la police haïtienne et ni les contingents kényans ne peuvent y faire face aujourd'hui. Et c'est cette puissance de feu qu'il faut absolument détruire.
Merci.
Et voilà. Voilà.
On peut le voir où ce WebDoc ?
Alors le WebDoc, il est en accès libre, accès ouvert sur lalibre.be et voilà, lalibre.be, Haïti, et je pense qu'on arrive dessus facilement.
Merci beaucoup Gaël Turine, donc lauréat du festival Visa pour l'image, et où vous montrez dans ce doc sur Haïti au cœur de l'enfer, toute la réalité de la violence haïtienne, les gangs armés, il faut expliquer à quel point les bandits contrôlent certains quartiers. Merci beaucoup. Le retour, on va parler de sport, le retour du championnat de France féminin de football, rebaptisé Arkema Première Ligue, avec notamment un choc prévu demain entre Lyon et Marseille. Et si on vous en parle dès maintenant, c'est parce que au-delà du sport, l'économie du football féminin se retrouve fragilisée. Dans la lignée de la crise des droits télé qui fragilise tout le football français, les sections féminines sont les premières victimes, Grégoire Bellière.
À Reims, Montpellier ou encore au Havre, les sections féminines sont à vendre pour des raisons financières. Mais pour l'économiste Luc Arondel, ce ne sont que des prétextes.
C'est pas en vendant les sections féminines qu'on va résoudre les problèmes financiers de la Ligue 1 masculine, ça c'est clair. Le budget global de la Première Ligue, hein, c'est entre 40 et 50 millions d'euros. Donc ça, c'est à mettre en parallèle aux 2 milliards de la Ligue 1 française. Donc voir les sections masculines vouloir se débarrasser des sections féminines pour des raisons économiques, c'est quand même assez surprenant.
De faibles économies donc, et même si le rachat de la section féminine de Lyon par la milliardaire américaine Michelle Kang donne l'exemple d'un modèle d'indépendance, pour le reste du championnat, le retour en arrière paraît inévitable.
Pour l'instant, le foot féminin ne génère pas assez de revenus pour être autosuffisant. Il y a très peu de droits télé, il y a très peu de billetterie. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour qu'il redevienne indépendant. Sauf effectivement pour les deux locomotives que sont Lyon et PSG, mais c'est deux clubs qui sont un petit peu à part.
La Ligue féminine de football professionnel veut montrer un nouveau visage, avec plus de matchs diffusés gratuitement notamment, des réformes pour préparer un avenir encore incertain.
Autre forme de compétition, les concours de piano. Ça se passe en Suisse. Le pianiste français Paul Lecoq a remporté la 31e édition du prestigieux concours international Clara Askill. Cet artiste français de 20 ans était finaliste parmi 133 candidatures internationales. Il remporte, Paul Lecoq, ce concours. Il l'a remporté en interprétant le concerto pour piano numéro 3 en do mineur de Ludwig von Beethoven. On va terminer ce journal par un sourire, une piqûre de rappel probablement pour ceux qui étaient en vacances en Bretagne avec ce concours à Brest, concours de cris de goémouette, l'imitation du cri de goéland ou de mouette, une vingtaine d'inscrits et une compétition de haute volée bien sûr, à laquelle vous avez assisté Baptiste Schweitzer.
Costume à paillettes, lunettes disco, Goélandine in the sky est l'une des premières à attaquer le concours. Les candidats succèdent. avant l'arrivée de Guelguel Traduction qui propose toute une palette d'émotions chez le goéland, celui qui a soif, faim ou qui est moqueur. Valentine, elle, les connaît bien, ces oiseaux.
Ça fait 2 mois que je m'entraîne, en fait. Je suis jardinière pour la ville de Brest. Donc moi, les goélands, je les vois tous les jours. Et je parle avec eux, du coup. Le goéland, il fait partie de la ville de Brest, en plus. On le connaît par cœur.
De quoi ravir les membres du jury, parmi lesquels Alain et son goéland apprivoisé Ansker, véritable star de la soirée qui semble apprécier le spectacle.
Il sait reconnaître le talent. Il y a du haut niveau parce que c'est une énergie plus que le cri lui-même. Et le cri sort tout seul quand il y a l'énergie.
Brest qui espère un jour concurrencer Dunkerque et son fameux championnat du monde du cri de la mouette lors du carnaval.
Eh bien, on suivra ça également. Baptiste Schweitzer, ici Brest Isel. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On ressort les tongs cet après-midi.
Oui, les lunettes de soleil aussi, ouais. On se met en mode plage, vous voyez, parce que c'est le retour de l'été. Le soleil est bien présent partout. On a juste un léger voile nuageux sur la moitié nord et les températures sont en forte hausse. 35 degrés pour la maximale à Biarritz, 32 à Bordeaux, 29 à Grenoble, 28 à Marseille, 26 à Strasbourg, 24 à Paris et Lille ou 23 à Brest. Demain aussi, la journée sera assez agréable, même si les nuages vont faire leur retour par l'ouest.
Ouais, ce sont d'ailleurs des nuages qui vont marquer la fin de cette parenthèse estivale.
Oui, c'est une dégradation pluvio-orageuse qui va doucement rentrer par l'ouest. Demain, on aura d'abord les nuages. Et dans la soirée, peut-être déjà quelques coups de tonnerre sur le sud-ouest. Des orages qui remonteront dans la nuit de dimanche à lundi vers le nord-est. On aura l'occasion d'en reparler ce soir. En attendant, Eric, on profite, on fait le plein de vitamine
D. Exactement, Céline Dacosta.